Donald Trump, invité d'honneur à célébrer la fête nationale française du 14 juillet, aux côtés de son homologue français Emmanuel Macron, qui a salué l'amitié entre la France et l'Amérique. Au Mali, l'armée affirme avoir abattu un chef du Front de libération du Massina, groupe djihadiste actif dans la région de Mopti, au centre du pays. Au Rwanda, la campagne électorale est bel et bien lancée pour la présidentielle du 4 août. Deux candidats affronteront Paul Kagame. L'esplanade des mosquées de Jérusalem a été fermée en raison de violences. Trois Arabes israéliens ont tué par balle deux policiers avant d'être abattus à leur tour. En France, le président Emmanuel Macron a salué la forte amitié entre la France et les États-Unis que rien ne séparera jamais à l'occasion du défilé du 14 juillet en saluant la présence du président américain Donald Trump, son invité d'honneur. John Lindon a joint Louis Ramirez, notre envoyé spécial sur place. Il revient tout d'abord sur l'ambiance qui règne aujourd'hui à Paris.
Ça a été une visite très heureuse. Donald Trump a été l'invité d'honneur lors des célébrations de la fête de la Bastille. Cette année, un affichage élaboré qui comprenait des bandes militaires et un survol par les avions américains. Et il y a des soldats américains qui ont défilé à côté des soldats français sur le Champs-Élysées.
Il y avait d'autres activités prévues ce vendredi, si oui, lesquelles?
Le président américain a quitté Paris. Il est allé à l'aéroport d'Orly pour, il a dit adieu, les grandes célébrations ont été le matin. Beaucoup de sécurité, plus de 3500 policiers ont pris des positions le long de la route du défilé pour se prémunir contre les éventuelles ou peut-être potentielles attaques terroristes. Tout s'est déroulé d'une façon très joyeuse.
Si on peut revenir sur la conférence de presse qu'il y a eu entre les présidents Trump et Macron, qu'est-ce qu'on en retient?
On peut dire que le président Trump et le président Macron ont parlé pour plus d'une heure et on a remarqué un changement, peut-être plus de flexibilité à la part du président américain. Après cette discussion avec Macron, le président Trump a indiqué qu'il pourrait changer sa réflexion sur sa décision de retirer des États-Unis de l'accord sur le climat de Paris. Il a dit que quelque chose pourrait se produire en ce qui se concerne l'accord de Paris. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe, mais nous en parlons au cours de la prochaine période. Et si cela se produit, ça sera merveilleux. Ce sont les mots du président américain après les entretiens avec le président Macron.
L'armée malienne a abattu dans le centre du pays un chef du Front de libération du Massina, groupe djihadiste actif dans cette région, auteur de plusieurs attaques contre les forces de sécurité. Pour en parler, John Lindon a joint le colonel Diarra Kone, porte-parole de l'armée malienne.
Hier, dans la nuit, vers les 21h-22h, dans la localité de Mounia, c'est 45 km ouest de Guinée, dans la région de Mopti, les FAMA, en l'occurrence des détachements de la garde nationale, ils ont pu mettre hors d'état de nuire, ont pu neutraliser M. Bekaye Sangaré. Bekaye Sangaré était réputé pour être l'élément qui commettait les forfaits, notamment l'année dernière sur le poste de la douane et de la gendarmerie à la bifurcation de Sofara en Nana à Mopti. Il a été l'auteur du meurtre d'un personnel des FAMA à Guinée et récemment, il vient d'être signalé aussi dans l'attaque du poste frontalier douane gendarmerie et du Mali à la frontière et avec le Burkina dans la localité de Béréna.
Panique en RDC au marché central de Kinshasa après une attaque qui a visé le bureau de l'administrateur ainsi que le cachot du commissariat de police. Les militaires de la garde républicaine, les agents de la police militaire et les policiers étaient déployés en grand nombre dans le quartier du marché. Les précisions de Thierry Kamboudi.
Tout a commencé en début d'après-midi lorsqu'une douzaine d'hommes avec des bandeaux rouges sur le front attaquaient le commissariat de la police du marché central de Kinshasa, récupérant quelques armes avant de s'attaquer au bureau de l'administratrice du principal marché de la capitale de la RDC. Brigitte Mongo, c'est son nom, a été tuée sur place par balle avec son garde du corps. La panique qui s'en est suivie a créé des embouteillages monstres autour du centre-ville, ainsi que la fermeture de nombreux magasins, même ceux éloignés du marché central. Un premier bilan des sources hospitalières fait état d'au moins 5 morts et plusieurs blessés, bilan non confirmé par des sources officielles. Le commissaire principal de la police ville de Kinshasa, joint sur place, attribue cette attaque à un groupe de voleurs et criminels, mais se refuse à avancer un quelconque bilan à ce stade. Le calme est revenu en début de soirée au marché central de Kinshasa avec un déploiement massif des éléments de l'armée et de la police. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
De l'autre côté du fleuve Congo, un peu plus de 2 millions de Congolais sont attendus aux urnes dimanche pour renouveler l'Assemblée nationale et les conseils départementaux lors des élections législatives et locales. La campagne relative à ce double scrutin s'achève à minuit. Les observateurs sont déjà arrivés à Brazzaville. Au Rwanda, c'est l'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 4 août. Seulement 2 candidats affronteront le président sortant, Paul Kagame. Les précisions de Nathalie Barge.
Franck Habineza et Philippe Mpayimana sont les 2 seuls candidats qui affronteront Paul Kagame et leur candidature n'a été validée par la commission électorale que quelques jours avant le début de la campagne. Quasiment inconnus du grand public, dotés de très peu de moyens financiers, ils n'ont que 3 semaines pour se faire connaître. Face à un parti au pouvoir hégémonique, la tâche semble impossible et une large victoire du président sortant est attendue. L'élection est jouée, n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer M. Kagame lors de son premier meeting. Vice-président et ministre de la Défense après 1994, il a été élu président en 2003 et réélu en 2010 avec plus de 90% des voix à chaque fois. Pendant la nuit, des affiches du Front patriotique rwandais ont été apposées. La présidentielle du 4 août prochain ne devrait donc réserver aucune surprise, comme le présagent de nombreux observateurs politiques.
Au Kenya, 5 personnes sont mortes pendant une opération pour libérer un responsable du gouvernement kényan dans la région côtière de Lamu. Elle avait été brièvement enlevée hier par des membres présumés des groupes islamiques radicaux Shebab. Au Nigeria, un chef traditionnel a été suspendu de ses fonctions pour avoir organisé le simulacre de son enlèvement. Youssouf Angoudaré a été suspendu pour une durée indéterminée avec effet immédiat. Le commissaire de la police de Lagos a dit que ce chef voulait embarrasser le gouvernement régional et compromettre un rival au sein de sa communauté. En Gambie, le président Adama Barrow a désigné hier une commission chargée d'enquêter sur les biens de son successeur Yahya Jammeh. Celui-ci est parti en janvier en exil pour la Guinée équatoriale et est accusé de détournement de fonds. Au Niger, la cité minière Darlit, où le groupe français Areva exploite l'uranium, se retrouve isolée du reste du Niger après l'effondrement d'un pont sur la route d'Agadez au nord du pays. Cet incident a été causé par de fortes pluies dans cette zone entièrement désertique. 6 personnes ont été condamnées à 1 an de prison ferme au Maroc pour avoir salué en décembre dernier sur Facebook l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie. Cet acte a été considéré comme une apologie et incitation à des actes terroristes selon la cour d'appel de Salé, près de la capitale de Rabat. Les accusés ont également écopé d'une amende de 10 000 dirhams, soit 100 euros. 3 Arabes israéliens ont été tués par balle. Ont tué par balle 2 policiers à Jérusalem ce vendredi. Les assaillants ont ensuite été abattus sur l'esplanade des mosquées, 3e lieu saint de l'islam, qui a été fermé en raison de ces violences. Morgane Kiriak.
Il s'agit de la première attaque à l'arme à feu commise depuis des années dans la vieille ville. Les prières du vendredi ont été annulées sur l'esplanade des mosquées. Quelques heures après l'attaque, la police israélienne a arrêté le moufti de Jérusalem, réuni avec d'autres Palestiniens dans la vieille ville pour dénoncer la fermeture de ce site ultra sensible occupé par l'État hébreu. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas ont eu une conversation téléphonique, un entretien rare depuis la suspension des négociations de paix en 2014. Le leader palestinien a condamné l'incident de ce vendredi et le chef du gouvernement israélien a de son côté appelé au calme. Les Arabes israéliens sont les descendants des Palestiniens restés sur leur terre à la création d'Israël en 1948. Ils ont la nationalité israélienne.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde contre une flambée de violence entre Israéliens et Palestiniens. Le ministre américain de la Défense a indiqué aujourd'hui que les États-Unis n'ont pas de preuves que les chefs du groupe État islamique, Abu Bark al-Baghdadi, a été tué comme l'avait annoncé une ONG syrienne. Pour le moment, le chef du Pentagone dit ne pas pouvoir ni confirmer ni démentir. Voilà pour le journal. Vous écoutez le Monde d'aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Didi Dico.
Dans le cadre du 6e sommet du TAC, traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, Alpha Barry, ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération, a annoncé le lancement des travaux du tronçon Ouagadougou-Koudougou, un projet inclus dans la réalisation de l'autoroute Ouagadougou-Abidjan. Les travaux devraient débuter au premier trimestre 2018. Et afin d'assurer la continuité des ouvrages, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ont convenu de rechercher des financements communs pour la réalisation de l'autoroute. L'agence de notation Moody's a baissé la note de crédit attribuée aux dettes du Gabon. Elle passe de B1 à B3 avec une perspective négative. Moody's avance deux raisons principales pour expliquer la dégradation de cette note. D'une part, la détérioration des finances publiques gabonaises, à cause de la chute des prix du pétrole combinée à une capacité d'ajustement politique limitée, et d'autre part, le manque de liquidité auquel fait face le gouvernement gabonais. L'Afrique du Sud prépare l'émission de 3 eurobonds d'une valeur de 2 milliards de dollars chacun. Les responsables sud-africains doivent rencontrer aujourd'hui 9 banques faisant des propositions pour jouer les entremetteurs lors de ces opérations. Le premier emprunt souverain est annoncé pour la fin de l'été 2017. Cette opération constitue un test pour le pays dont l'économie est actuellement en récession et le taux de chômage atteint désormais 27,7%, le plus haut taux enregistré sur les 14 dernières années.
À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eka, bonsoir à tous.
Alors, Soudan du Sud, Ouganda, pour donner le ton du premier tour des éliminatoires de la CAN Kenya 2018.
Tout à fait, 0-0 entre Sud-Soudanais et Ougandais aujourd'hui même à Juba. Parmi les rencontres phares de cette manche allée, le choc de voisins ouest-africains entre le Togo et le Bénin ce dimanche. Bien avant, on aura ce samedi le duel des deux Guinées entre Bissau et Conakry. La Gambie reçoit le Mali, les Lions de la Teranga se déplacent en Sierra Leone avec un effectif revu au dernier moment. 5 Lions quittent le groupe pour des tests en Europe. Ailleurs, Tanzanie-Rwanda retiendra l'attention dans la zone centre et est, tandis que le Botswana attend l'Afrique du Sud ce samedi.
Mukonjo signe en Chine et Bakambu prolonge à Villarreal.
Effectivement, initialement lié à Villarreal jusqu'en 2020, Cédric Bakambu a prolongé l'aventure avec les sous-marins. L'attaquant congolais reste donc chez les jaunes jusqu'en 2022. Bakambu, 26 ans, a inscrit 11 buts la saison dernière. L'international camerounais Benjamin Mukanjo, lui, s'est engagé pour 2 ans avec Jiangsu Suning, un club chinois de première division entraîné par Fabio Capello. Le montant du transfert est estimé à 5,5 millions d'euros. Mukanjo, 13 buts, a fini cette saison 3e du prix Marc-Vivien Foué 2017, puis remporté par Riyad Boudebouze. Ce trophée récompense chaque année le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française.
Un choc de génération en finale dames de Wimbledon.
Oui, l'Américain Venus William, 37 ans, et l'Espagnol Garbin Muguruza, 23 ans, s'affrontent en finale ce samedi. Venus, qui s'est imposé à 5 reprises à Londres, y va pour une 9e finale, la 16e en Grand Chelem. Pour sa part, Garbin, championne de Roland-Garros 2016, a le souvenir d'une finale perdue en 2015 à Londres contre la sœur cadette de Venus, Serena Williams. Les deux joueuses se sont rencontrées 3 fois et Venus n'a perdu qu'une seule fois. Chez les hommes, le Croate Marin Cilic s'est qualifié pour sa première finale à Wimbledon. Il défiera dimanche le septuple lauréat de Wimbledon, Roger Federer, qui jouera sa 11e finale du tournoi londonien.
4e victoire d'étape française dans la grande boucle.
Effectivement, Warren Barguil a remporté la 13e étape du Tour de France, portant du même coup à 4 le nombre de succès d'étape d'un coureur français depuis le départ. Le champion d'Italie, Fabio Aru, conserve le maillot jaune.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kababou depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique, à présent, les dossiers d'actualité. Le président américain Donald Trump était le grand invité du 14 juillet, la fête nationale française. Il a accepté l'invitation de son homologue Emmanuel Macron. Le locataire de la Maison Blanche a adopté un ton très différent concernant la France, qu'il a vertement critiqué dans un passé récent. Abdourahmane Dia a joint à Paris l'analyste politique Athanase Karayenge.
C'est plutôt une preuve que la diplomatie peut atteindre un niveau d'un art, d'un 7e ou un 8e ou 9e art. Et parce que ce n'était pas évident, effectivement, que le président Trump soit à Paris, parce qu'il a eu, pendant la campagne électorale américaine, des propos extrêmement désobligeants à l'égard de la France. Et l'opinion publique française ne le porte pas non plus dans son cœur. Et puis récemment, le président Trump s'est retiré des accords de Paris. A priori donc, le président américain avait accumulé toutes les raisons pour qu'il ne soit pas le bienvenu à Paris. Mais comme je disais, la diplomatie, quand elle atteint à un niveau aussi raffiné que le président Macron vient d'en donner un exemple, c'est vraiment de l'art. Et je pense que la meilleure façon de dompter un ours, c'est de le gaver de miel. C'est ce que le président Macron a fait.
Donc on peut dire que c'était une opération de charme de la part du président Macron d'avoir invité son homologue américain.
De charme, oui, certes, mais surtout de reconnaissance à l'égard du peuple américain qui a consenti un sacrifice immense en envoyant des jeunes se battre en Europe et en France pendant la Première Guerre mondiale, qui a emporté quand même 10 millions de victimes. Donc la raison, elle est fondamentale, elle est forte. Et puis, à côté de ça, effectivement, le président Macron a réussi merveilleusement à donner de la France une image belle, conquérante, accueillante. Et peut-être que le président Trump pourra même changer son point de vue sur le climat.
Justement, j'allais vous demander quelles peuvent être les retombées de cette visite du président Trump à Paris. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une amélioration des relations entre la France et les États-Unis?
Oh, absolument. Les relations sont, à mon avis, déjà très, très largement améliorées. Il y aura plus de crispation, les discussions auront certainement... il y aura des tensions quand il faudra mentionner les intérêts des uns et des autres, notamment autour des industries qui vont naître dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, l'avocat de l'ex-maire de Moundou et ancien candidat à la présidence, M. Médard, dit avoir été empêché de le rencontrer dans son lieu de détention. Son arrestation jeudi soir par la police locale est intervenue quelques jours seulement après sa destitution par les conseillers municipaux qui l'accusent de mauvaise gestion. Les compagnons de Loakine Kourayou Médard au sein de la coalition Cheval Blanc dénoncent pour leur part un complot orchestré par le régime du président Idriss Déby pour déstabiliser l'ensemble de l'opposition. Timothée Donombay a joint l'avocat de l'ancien maire de Moundou, Maître Boniface Mounanjil Nounji.
Hier soir, la population était agitée par rapport à son arrestation. Aujourd'hui, les esprits se sont calmés un peu. Donc, aux environs de 12 heures, heure locale, il y a le député de son parti qui est venu me chercher pour que j'aille le voir au commissariat central. Dès que j'ai fait mon entrée, la police m'a chassé comme un malpropre pour me pousser hors de la cour du commissariat. Selon les agents de la police, c'est qu'ils ont reçu des instructions venues d'en haut.
D'en haut, c'est-à-dire?
Je ne sais pas de leur hiérarchie. Donc, il ne faut pas admettre la présence d'un avocat à ses côtés.
Nous avons aussi appris que son agent financier l'a rejoint en détention.
Oui, son directeur administratif et financier l'a rejoint aussi en détention ce soir. Et là, ils sont à la recherche du directeur technique de la mairie.
Est-ce qu'on en sait plus sur les motifs de ces interpellations?
Bon, selon ce que... Parce qu'on n'a pas accès au dossier, mais c'est des rumeurs qui circulent ça et là. On lui repose d'avoir détourné 3 milliards, dit-on, chose qui est vraiment impossible d'abord. Et puis on lui reproche de vouloir inciter la population à un soulèvement. Au fond de cette présentation d'accusation, c'est que les délégués régionaux du sud, de tout le sud de son parti, sont convoqués hier à une rencontre aujourd'hui. Alors, selon la stratégie du pouvoir, il faut empêcher que cette réunion se tienne aujourd'hui. C'est ça le fond du problème. Donc il fallait l'arrêter avant la tenue de la réunion aujourd'hui. C'est ça le vrai problème.
Lao Kainkurayo Médard a été destitué de son poste de maire, mais il a été remplacé par un conseiller municipal de son propre parti.
Et pour ça, il fallait se réunir. Le parti doit se réunir. Bon, les délégués du site doivent se réunir pour décider de la conduite à tenir. Et ceux qui ont quitté le parti, ou du moins qui l'ont destitué, ces conseillers municipaux qui l'ont destitué, le parti devait se réunir pour décider de la conduite à tenir vis-à-vis de ceux-là. Et ça devait se dérouler normalement aujourd'hui. Donc il faut à tout prix empêcher cette rencontre-là aujourd'hui. Voilà un peu le mobile exact de son arrestation hier.
Qui a intérêt à empêcher la tenue de cette rencontre?
Ah mais, qui a manipulé les conseillers pour qu'ils le destituent? Ça, je n'en dirai pas plus.
C'était Maître Boniface Mounandville au micro de Timothée Donombay. Au Congo-Brazzaville, les populations s'apprêtent à voter pour de nouveaux députés et les conseils locaux. La campagne électorale s'achève à minuit. Les observateurs de l'Union africaine sont déjà arrivés à Brazzaville, mais une frange de l'opposition et la société civile appellent au boycott des scrutins. Des détails avec Nouéla Ngoussou à Brazzaville.
Pendant 14 jours, les candidats de la majorité, de l'opposition et surtout des indépendants ont rivalisé d'ardeur pour rallier le plus de suffrages. Beaucoup de jeunes et des femmes sont candidats.
Oui, il a la chance parce qu'il est venu avec les projets tellement énormes pour la jeunesse. Nous le soutenons.
Il y a l'orgueil, la puissance de ceux qui ont des moyens et qui utilisent l'argent de l'État. Alors, c'est décevant. Mais ils n'ont pas de chance.
C'est dans cette ambiance qu'une frange de l'opposition, appuyée par la société civile, appelle au boycott.
Donc ça ne sert à rien que nous perdons et notre énergie et nos connaissances pour aller légitimer un pouvoir qui depuis 2016 est illégitime et qui est là par un hold-up électoral dont nous vivons les conséquences aujourd'hui.
Les organisations de la société civile, signataires de la présente déclaration, demandent à tous les citoyens congolais, soucieux du changement pour le progrès social, de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et des institutions crédibles, de ne pas prendre part à cette farce électorale jouée d'avance. Le jour du scrutin, nous devons tous observer une désobéissance civile en restant chez nous.
Charles Zachary Boao, le porte-parole de la Fédération de l'opposition, explique.
Vous savez, notre position est essentiellement politique et éthique. Nous aurions bien aimé partir et nous savons que nous aurions gagné. Et nous, comme nous avons gagné à la présidentielle. Autre chose est de savoir si nous avons les moyens de protéger notre victoire face aux armes. Là, c'est tout le problème de la gouvernance électorale que nous posons et tout le problème du dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux. Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La désobéissance civile.
Plus de 1200 candidats ont pourtant battu campagne pour les législatives, même dans le pool, une région en proie à des graves violences. Joachim Banza, le candidat de la majorité, Mbanza Ndunga.
Mais je crois que si on adopte l'attitude de baisser les bras, de boycotter, on ne résoudra rien. Au contraire, on va condamner les populations aux souffrances. Je crois que chaque fois que c'est possible de faire quelque chose, il faut le faire. Mais quand même, le boycott est une attitude que je trouve extrême, vraiment qui serait à éviter.
Une vingtaine d'observateurs mandatés par l'Union africaine sont déjà à Brazzaville. Le taux de participation restera l'un des grands enjeux de ce scrutin couplé, car beaucoup d'analystes estiment que la barre de 15% ne sera pas atteinte. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
En Côte d'Ivoire, un malaise semble s'installer au sein du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, avec le débat sur l'alternance en 2020 qui bat son plein dans les différentes... états-majors des partis politiques membres de cette coalition. Depuis 48 heures, le pays assiste à une vague de limogeage des personnalités proches du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et ceux issus du PDCI-RDA. Détail avec notre correspondante, Narita Namasté.
En absence du président du plus vieux parti, Henri Konan Bédié, c'est Akossi Bendjo, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, qui a animé la réunion d'urgence qui s'est tenue au siège de leur formation politique. Après plus de 3 heures de huis clos, le président de Science du jour a confié à la presse mobilisée pour la circonstance ces quelques mots.
Le secrétariat exécutif s'est réuni ce vendredi 14 juillet pour analyser la situation sociopolitique que nous traversons. Tous les problèmes ont été passés en revue en toute sérénité durant la séance de travail. Dans le respect strict des procédures internes à notre parti, je me rendrai prochainement à Paris pour rendre compte au président du parti en présence du secrétaire exécutif qui se trouve lui-même actuellement en France.
La situation politique est très tendue depuis quelques semaines avec la cache-dame découverte chez un proche du président de l'Assemblée nationale et les nombreux limogeages de plusieurs cadres proches d'Henri Konan Bédié et Guillaume Soro. Roland Houchaud se dit vraiment surpris du comportement du président Ouattara vis-à-vis de ses alliés.
Je suis beaucoup surpris que ceux qui ont permis à Ouattara d'accéder au pouvoir, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à travailler avec eux. C'est un peu décevant. Ils les ont limogés pour des raisons peut-être que nous ignorons, nous, la population.
Un militant du Rassemblement des Républicains proche du président ivoirien, s'interroge sur les derniers décrets de son mentor avant de se dire inquiet.
La situation actuelle, ça m'inquiète. Parce que là où ça va, là, ça devient dangereux. Bon, je me demande, le président Alassane veut quoi au juste?
Quand les espèces ivoiriens vont travailler ensemble, demain elle est là, après demain elle est là, nous on ne comprend plus rien. Or, ils ont dit qu'ils sont une alliance.
La coalition qui a porté le président Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2010 va allègrement vers son implosion. Car depuis la prise du pouvoir, le partage du gâteau divise les alliés des circonstances à plusieurs niveaux. Conséquence, 3 des membres fondateurs de cette alliance ont claqué depuis longtemps la porte. Quelle sera la réaction du plus fidèle allié du pouvoir Ouattara face à ce qui infligé à certains cadres du PDCI? Les jours à venir nous situeront. Narita Namasté, à Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Quelle reine d'humain de fer
Mais ton régime est ton défait. Elle est mes ailes pour voler. Mais enchaîné, je ne peux décoller.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde Sims Loumani, à la présentation Ekia Badou, Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité en continu. Excellente soirée à vous.